Bonsoir, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais remercier le docteur César Santiago Pineda et le docteur Thomas Cox pour leur aimable invitation. J'aimerais aussi m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous en personne à cause d'une obligation à Lyon. Donc, je discuterai avec vous in absentia grâce à la technologie moderne. Pour réussir un programme de dépistage, vous avez besoin d'un test de dépistage abordable, simple et précis. Il vous faut également une infrastructure de soins de santé adaptée qui prendra en compte les besoins croissants de diagnostic, de traitement et de suivi. Et un personnel formé et compétent est nécessaire pour mener à bien les différents aspects d'un programme de dépistage. Vous avez également besoin d'un système d'information qui nous donnera une idée de la participation et des résultats. Pour réaliser un programme de dépistage de façon convenable, vous avez besoin d'une organisation qui coordonnera l'invitation de la population cible, la logistique du dépistage et la logistique de l'orientation des personnes dépistées positives vers de nouvelles recherches de diagnostic, un traitement et un suivi. En fin de compte, le but est d'évaluer l'évolution de la maladie pour laquelle le programme de dépistage a été entrepris et le degré d'efficacité du programme de dépistage dans la diminution du poids de cette maladie. Le frottis conventionnel est le test le plus largement utilisé pour dépister le cancer du col de l'utérus. Mais certains problèmes liés à la mise en place du frottis cervical dans les pays à faible ou moyenne ressource ont encouragé les chercheurs à étudier des alternatives au frottis. Et dans ce contexte, vous avez des tests nécessitant peu de technologie, comme l'inspection visuelle du col utérin à l'œil nu après application d'acide acétique à 3 ou 5%, appelée aussi IVA, l'inspection visuelle du col à faible grossissement après application d'acide acétique, appelée IVAM, et l'inspection visuelle du col après l'application du soluté de Lugol, appelée IVL. Les difficultés de reproductibilité et d'interprétation du test de dépistage cytologique ont incité les chercheurs à évaluer le test HPV pour les HPV oncogènes, virus du papillome humain, qui sont les agents causaux du cancer du col de l'utérus. Tous s'accordent à dire qu'une sensibilité élevée représente une condition nécessaire pour le dépistage précoce de la néoplasie cervicale dans les pays à faibles ressources. Par conséquent, nous allons aborder brièvement les caractéristiques de fonctionnement de ces différents tests de dépistage du cancer du col de l'utérus afin de déterminer la manière de s'y prendre dans les pays à faibles ressources. Quel est le degré d'exactitude du frottis cervical pour le dépistage des lésions SIN 2 et 3 ? Nous prenons en compte les données provenant d'études transversales réalisées en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Mexique et en Inde. Ce sont des études transversales et le nombre total de femmes examinées dépasse les 45 000. Et le frottis cervical a une sensibilité variant de 44 à 78% pour dépister les lésions SIN 2 et 3. La spécificité est, bien entendu, élevée. Elle varie entre 91 et 98% dans ces études. Les études transversales réalisées au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en Inde et au Mexique, et portant sur le dépistage du cancer du col par le test HPV capture d'hybride 2, indiquent que la sensibilité varie entre 67 et 93% pour le dépistage des lésions SIN 2 et 3. Et la spécificité varie entre 62% au Zimbabwe et environ 94% en Inde. L'inspection visuelle à l'aide d'acide acétique à 3 ou 5% nécessite d'appliquer l'acide acétique sur le col et d'attendre au moins une minute avant de définir les résultats du test. Si l'on dépiste sur le col une lésion acidophile bien définie dans la zone de remaniement, proche de la jonction pavimento-cylindrique ou de l'orifice externe, alors le test est positif. Ou si une excroissance a blanchi après l'application d'acide acétique, le test est également positif. Les études transversales réalisées en Afrique subsaharienne, en Inde et en Chine indiquent que la sensibilité du test IVA, effectué principalement par le personnel de santé ou les infirmières, sauf dans l'étude en Chine où le test était effectué par un médecin, cette sensibilité donc du test IVA pour le dépistage des lésions SIN 2, 3 variait entre 67% en Afrique du Sud et environ 79% en Inde. La spécificité variait de 64 à 86% environ. Dans une étude transversale réalisée en Afrique du Sud et dans une autre étude réalisée en Inde, les caractéristiques de l'inspection visuelle à l'œil nu après application d'acide acétique ont été comparées à celles de l'inspection visuelle à faible grossissement pour visualiser le blanchiment. Ces deux études ont montré que les caractéristiques de fonctionnement des deux tests IVA et IVAM étaient semblables. Donc en fait, les données provenant des études transversales indiquent que l'utilisation de l'inspection visuelle à faible grossissement n'apporte pas d'avantage par rapport à l'inspection visuelle à l'œil nu. L'inspection visuelle après application du soluté de Lugol, IVL, est en fait l'ancien test de Schiller. Le test est basé sur le dépistage de lésions jaunes ou jaunes moutarde situées sur le col, dans la zone de remaniement, proche de la jonction pavimento-cylindrique ou de l'orifice externe. Bien entendu, le cancer invasif jaunit également après l'application de soluté de Lugol. Le test est basé sur le fait que la néoplasie cervicale ne produit pas de glycogène, et par conséquent, après l'application de l'iode, les zones contenant du glycogène deviennent noires ou brunes, alors que les zones sans iode, telles que les zones de néoplasie cervicale, restent jaunes. L'IVL a été évalué dans plusieurs études transversales en Inde. L'ensemble des données de ces études indique que la sensibilité est de 92% environ pour le dépistage des lésions SIN2 ou 3 ou du cancer invasif. Et la spécificité est la même que celle de l'IVA, c'est-à-dire de 85% environ. Donc, que se passe-t-il lorsque vous associez l'inspection visuelle à l'aide d'acide acétique à l'inspection visuelle après application de soluté de Lugol? Si vous définissez le test comme positif, lorsque les deux tests sont positifs, c'est-à-dire que l'IVA et l'IVL sont positifs, alors la sensibilité est de 79% environ et la spécificité est de 89% environ dans les études réalisées en Inde et en Afrique subsaharienne. Si vous définissez un test comme positif, c'est que l'un des deux tests est positif, c'est-à-dire que seul l'IVA ou l'IVL est positif, ou que les deux tests sont positifs. La sensibilité est meilleure et atteint 94% environ, et la spécificité est de 81% environ, et il est probable que, dans les pays à faibles ressources, le fait de fournir les deux tests ensemble présente un avantage. En ce moment, nous recevons des données provenant d'études transversales qui mesurent le degré d'exactitude des méthodes de dépistage basées sur l'inspection visuelle, mais nous ne savons pas si un programme basé sur l'inspection visuelle à l'aide d'acide acétique ou de soluté de Lugol peut diminuer l'incidence et la mortalité liées au cancer du col de l'utérus. Cette question est traitée par deux essais randomisés en Inde. Un essai randomisé est réalisé dans le sud de l'Inde, impliquant environ 85 000 femmes, afin d'évaluer l'efficacité et l'efficience du dépistage par IVA dans la diminution de l'incidence et de la mortalité liées au cancer du col de l'utérus. L'étude réalisée dans le district de Dindigul, au sud de l'Inde, implique 48 000 femmes réparties aléatoirement dans un groupe où elles seront soumises une seule fois au test de dépistage par IVA, par des infirmières, et 30 000 femmes réparties dans un groupe témoin sans dépistage. Sur les 48 000 femmes réparties dans le groupe dépistage par IVA, 30 500 ont été dépistées et les 17 500 restantes n'ont pas participé. Le taux de positivité était de 9,6%. Les femmes dépistées positives ont été soumises à un examen colposcopique réalisé par les infirmières, et les zones anormales du col ont été biopsiées. Dans cette étude, le taux de dépistage des lésions SIN 2 ou 3 est d'environ 7 femmes sur 1000 femmes dépistées, c'est-à-dire 0,7%. Cela signifie que pour chaque centaine de femmes dépistées par IVA, une femme était dépistée avec des lésions SIN 2 ou 3 ou un cancer invasif. Actuellement, le suivi se poursuit. À la fin de l'année 2006, les résultats en termes d'incidence de cancer invasif dans le groupe dépistage par IVA et le groupe témoin seront disponibles. Cela nous permettra de comparer les taux d'incidence ainsi que les taux de mortalité, et nous serons en mesure d'évaluer les résultats de dépistage par IVA en termes de diminution de l'incidence et de la mortalité. Cette diapositive nous montre que plus de la moitié des femmes souffrant d'un cancer invasif dans le groupe intervention, le groupe dépistage de l'étude de dépistage de Dindigul, sont dépistées au stade précoce de la maladie, c'est-à-dire au stade 1 ou 2, par rapport au groupe témoin, dans lequel seulement 19% des femmes sont dépistées à ces stades. Cette diapositive nous montre la courbe d'apprentissage des infirmières réalisant un test IVA. Dans les 6 premiers mois de l'étude, les taux de positivité du test IVA étaient de 20% environ, mais tandis que les infirmières apprenaient, le taux de positivité chutait à moins de 10%. D'un autre côté, les taux de dépistage des lésions SIN2 et 3 restent constants sur la durée, indiquant que lorsque le personnel apprend, les taux de positivité des tests diminuent. Mais le taux de dépistage de la maladie reste plus ou moins constant. Bien entendu, une bonne formation est nécessaire et l'étude doit être contrôlée de façon appropriée. Et le personnel a besoin d'être formé plusieurs fois et réorienté si l'on veut garder une sensibilité et une spécificité relativement élevées. L'essai randomisé mené dans le district d'Osmanabad, dans l'état de Maharashtra, en Inde, en collaboration avec le Tata Memorial Center et le Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital, compare l'inspection visuelle à l'aide d'acide acétique, le test HPV par capture d'hybride 2 et le frottis conventionnel en termes de diminution de l'incidence et de la mortalité liée au cancer du col de l'utérus par rapport au groupe témoin dans lesquels les femmes reçoivent les soins habituels dans la région, c'est-à-dire sans aucun dépistage. L'essai clinique randomisé d'Osmanabad vise à évaluer la diminution de l'incidence et de la mortalité du cancer du col associée à un dépistage unique par IVA, frottis cervico-vaginal ou test HPV par rapport au groupe témoin sans dépistage et à déterminer l'efficience des trois approches ci-dessus. L'étude implique environ 142 000 femmes réparties par groupe dans 52 centres de soins primaires. La répartition aléatoire est organisée par groupe. 13 groupes sont répartis dans chacun des bras de l'étude. Par conséquent, le bras IVA compte 13 groupes et 35 000 femmes. Le bras frottis compte aussi 13 groupes et 35 000 femmes. Il y a également 35 000 femmes réparties en 13 groupes dans le bras HPV et il en est de même dans le bras témoin. On a réalisé un dépistage unique dans les trois bras d'intervention. 72% des femmes du bras IVA ont accepté le dépistage. Le taux de positivité était de 14%. Dans le groupe frottis, 73% des femmes ont participé au dépistage. Le taux de positivité, défini au seuil ASCUS, était de 7%. Et dans le bras HPV, 70% des femmes ont participé au dépistage. Le taux de positivité était de 10%. Si vous observez le taux de dépistage des lésions SIN2 ou 3 ou de cancer invasif dans les trois bras, les taux de dépistage sont semblables. Des lésions SIN2 ou 3 ou des cancers invasifs ont été dépistés chez 1%, 1,3% et 1,1% des femmes dans les groupes IVA, frottis et HPV respectivement. Cela signifie que pour chaque millier de femmes dépistées par IVA, frottis ou test HPV, une femme est dépistée avec des lésions précancéreuses de haut grade ou un cancer invasif du col de l'utérus. En résumé, les taux de dépistage étaient semblables à travers les groupes et il n'y a pas de différence importante du point de vue statistique entre les différents taux de dépistage. Dans les groupes dépistés, 50% des femmes ayant un cancer invasif ont été dépistées au stade 1 de la maladie, par rapport à 19% seulement des femmes du groupe témoin, dans l'essai randomisé de dépistage à Osmanabad. La migration des stades précoces dans le groupe intervention est due à une détection active. Dans les essais de dépistage de Dindigul et Osmanabad, plus de 80% des femmes dépistées avec une néoplasie cervicale intraépithéliale ont été traitées. Dans les deux études, la cryothérapie était réalisée par des infirmières et la résection à lance diathermique, RAD, par des médecins généralistes ou des gynécologues. La cryothérapie était proposée aux femmes ayant des lésions situées sur l'exocol, qui impliquaient moins de 3 cadrans du col, sans aucun signe de cancer invasif et sans envahissement du canal endocervical. Pour les signes 1, le taux de guérison avec la cryothérapie était de 90%, et le taux de guérison pour les lésions signes 2 ou 3 avec la cryothérapie était de 79% à 1 an de traitement. Pour la RAD, le taux de guérison à 1 an pour les lésions SIN1 était de 96% et pour les SIN2 ou 3, il était de 86%. Dans l'ensemble, sur 2130 femmes ayant une néoplasie cervicale intraépithéliale prouvée histologiquement dans les deux essais randomisés, 89% n'avaient plus aucun signe de maladie à 1 an de traitement et ces résultats sont semblables à ceux reportés dans les pays occidentaux. Actuellement, nous possédons un large éventail d'informations concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus grâce aux nombreuses études menées dans différentes parties du monde, supportées plus particulièrement par la Fondation Bill & Melinda Gates et par l'intermédiaire de l'Alliance pour la prévention du cancer du col de l'utérus et grâce au travail de chercheurs enthousiastes à travers le monde. Nous connaissons les caractéristiques des tests de dépistage et nous savons comment organiser les programmes, comment mettre en place les services de recherche et de traitement, et comment organiser les systèmes d'information et évaluer les résultats du dépistage. Cette connaissance a été très utile pour réaliser ce document. Il peut être utile pour les directeurs de programme et le personnel intéressé, en particulier dans les pays en voie de développement, pour mettre en place les programmes de prévention du cancer du col de l'utérus. Ce manuel a été publié récemment, il est disponible en ligne et gratuitement de la part des partenaires de l'ACCP. Il représente un très grand progrès pour la promotion et l'organisation de programmes de prévention du cancer du col de l'utérus, en particulier dans les pays à faibles ressources. Le manuel a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé et par l'Association internationale pour le traitement et la recherche sur le cancer, INCTR, à Bruxelles, en Belgique. Pour conclure, nous avons longuement débattu sur les tests à utiliser dans différents pays. En fait, nous possédons actuellement de nombreuses informations, parmi lesquelles nous devons faire un choix adapté pour différents pays. Mais un programme est beaucoup plus important qu'un test. En fait, plusieurs éléments d'un programme de dépistage n'ont pas reçu l'attention dont les tests de dépistage ont fait l'objet dans les discussions. Et pour mettre en place un programme, nous avons besoin d'une infrastructure de soins de santé adaptée. Et dans de nombreux pays, de telles infrastructures font défaut ou sont inadaptées. Il y a également un besoin important d'initiative de la part des organisateurs de soins de santé et des hommes politiques pour instaurer des politiques nationales d'intervention afin d'augmenter le nombre d'infrastructures et de proposer et de mettre en place des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus. En fait, j'aimerais insister sur le fait que l'investissement dans les infrastructures de soins de santé et le développement des ressources humaines représentent des besoins urgents de nombreux pays en voie de développement. Des tests simples, précis et abordables sont disponibles, mais un programme est nécessaire pour les mettre en place, et plusieurs éléments doivent être pris en compte, plus particulièrement le rapport entre le dépistage et la recherche des femmes dépistées positives, le traitement et le suivi pour les femmes dont les lésions sont confirmées. À moins que le dépistage et le traitement ne soient liés et qu'il existe une infrastructure de soins de santé adaptée pour satisfaire ces besoins, les programmes de dépistage ne peuvent pas être mis en œuvre de manière satisfaisante. Et dans ce contexte, de sérieuses initiatives pour l'instauration de politiques et une mise en place réussie sont des conditions nécessaires. Merci pour votre attention. Il s'agit d'une photo d'un temple hindou très célèbre, dans la ville de Madurai, dans le sud de l'Inde. Le temple a été construit dans les années 1300.